7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde, pour commencer, vous nous emmenez en territoire palestinien, à Gaza. Rencontre, Michael, avec une communauté dont on ne parle quasiment jamais, la communauté syrienne.
Ouais, des familles entières venues d'Alep, de Homs, de Damas, et qui ont toutes fui la guerre en Syrie, évidemment. Près de 200 familles qui ont ainsi choisi la bande de Gaza comme refuge. Une zone pourtant soumise, on le sait, à un sévère blocus, en proie à une véritable crise humanitaire, violence quasi quotidienne, mais une zone qui sera pourtant pour beaucoup le dernier refuge. Bonsoir Marine Vlaovic.
Bonsoir Michael.
Vous êtes notre correspondante dans la bande de Gaza et vous avez donc rencontré ces réfugiés syriens passés finalement d'une guerre à l'autre.
Oui, et certains ne sont pas difficiles à trouver car ce sont déjà devenus des célébrités locales. C'est le cas d'Anas Katerji, figure ronde, rire sonore. Il s'affaire en cuisine en jonglant avec les épices et les ustensiles.
Je suis en train de préparer du taboulé, du shawarma, mais à la mode Alep. Que des bonnes choses.
Le jeune homme a ouvert un restaurant de spécialité syrienne, bien sûr, niché dans un quartier populaire du sud de Gaza City. Gaza, il y a encore 4 ans, ce n'était qu'une boutade pour Anas et ses amis lorsqu'ils étaient encore sous les bombes à Alep au premier jour du conflit syrien.
Un jour, je leur ai dit « je vais partir ». Ils m'ont demandé « mais pour aller où ?» Et j'ai répondu à Gaza. J'ai parlé de Gaza parce que c'est l'un des pires endroits au monde. Dieu m'a entendu, j'aurais dû lui demander de me donner $1 million.
Mais c'est sans un sou en poche que le trentenaire s'est d'abord réfugié en Égypte, avant qu'on ne lui propose un travail à Gaza qu'il a regagné en 2013.
Et pourtant l'accès à la bande de Gaza est contrôlé par les Israéliens, par les Égyptiens. Impossible d'y entrer ou d'en sortir sans permis. Alors comment a-t-il fait ?
Eh bien comme des dizaines d'autres Syriens, Anas est entré illégalement via l'un de ces fameux tunnels de contrebande qui a alimenté pendant des années le trafic du Hamas. Mais c'était avant la guerre, celle de l'été 2014. Qui a vu s'affronter l'État hébreu au mouvement islamiste. 2000 morts, une enclave palestinienne dévastée par les bombardements et la destruction totale des galeries souterraines. Seule issue de secours possible pour les réfugiés syriens qui sont désormais bloqués dans cette prison à ciel ouvert. Plaisanterait presque Ratibé Allais.
Mais où trouver une meilleure prison ? Nous n'avons pas d'électricité, pas de frontières ouvertes. On ne peut pas sortir d'ici. Si c'était le cas, je me sentirais plus en sécurité. Mais non, pas d'électricité. Nous sommes bloqués ici. Quand nous sommes arrivés, c'était calme. Ensuite, nous avons connu 2 guerres. Et ici, les gens disaient « c'est normal ». Pour moi, ça ne l'était pas. Et puis, ça l'est devenu.
La quadragénaire a quitté Yarmouk avec son mari et ses 6 enfants. Car comme la majorité des Syriens établis désormais à Gaza, Ratiba est une double réfugiée. Elle est en fait d'origine palestinienne. Sa famille a fui la Palestine en 1948 lors de la création de l'État d'Israël pour rejoindre la Syrie. Une sorte de retour aux sources que regrette aujourd'hui la quadragénaire.
Et ces réfugiés syriens, Marine, est-ce qu'ils n'ont pas l'espoir de quitter un jour la bande de Gaza ?
D'abord, certains ne le désirent tout simplement pas. Des organisations humanitaires qui travaillent à leur côté estiment que près de la moitié des 200 familles souhaitent rester à Gaza, comme Anas, qui n'envie rien au sort des centaines de milliers de réfugiés syriens qui ont rejoint l'Europe.
Ici, j'ai une bonne situation, j'ai ouvert mon commerce, j'ai construit mon foyer. Oui, cette région est sans espoir, mais rien que d'imaginer d'être parqué dans un centre d'accueil en attendant mon allocation parce que je ne peux pas travailler, c'est un sentiment insupportable.
Et pour les autres, c'est un véritable casse-tête administratif, une situation kafkaïenne. Car Israël doit approuver tous les dossiers de transfert. Le gouvernement syrien a quant à lui demandé aux Égyptiens d'extrader les ressortissants syriens qui s'échapperaient de Gaza. Et pour le moment, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a sélectionné une 30aine de familles souhaitant se rendre au Canada et en Europe. Mais le processus pourrait prendre de 6 mois à 2 ans. Et les réfugiés syriens de Gaza ont le temps de regarder de loin le conflit s'enliser dans leur pays d'origine, sans espoir d'y retourner un jour.
Marine Vlaovic, correspondante de France Inter en territoire palestinien. Merci.
Direction la Chine maintenant, Michael. La Chine où une décision de justice taïwanaise est commentée partout.
Oh que oui, décision rendue le 24 mai dernier, mais qui est toujours en tête des topics, ou si vous préférez, des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux chinois. Décision qualifiée d'historique, puisque Taïwan a choisi d'autoriser le mariage homosexuel, suscitant évidemment un immense espoir dans toute la communauté gay du continent chinois, où l'on espère précisément que l'exemple taïwanais sera un jour suivi. À Pékin, le reportage de notre correspondante permanente, Dominique André.
Xiao Gang dirige l'ONG Égalité des sexes à Pékin, créée en 2002. L'arrêt de la cour de Taipei soulève beaucoup d'espoir dans le mainland, la Chine continentale, où l'homosexualité a été rayée de la liste des maladies mentales qu'en 2001. C'est à Gulo, centre culturel et branché de Pékin, que nous reçoit Xiao Gang.
Je pense définitivement que c'est une incroyable et bonne nouvelle pour les habitants de Taïwan et aussi pour ceux qui vivent en Asie. C'est vraiment un très très bon signal qui est envoyé. Spécialement, je pense, pour la population chinoise, car nous avons entre Taïwan et la Chine des relations très spéciales. N'importe quel mouvement sur l'île de Taïwan a un très grand impact sur les habitants de Chine continentale.
Avez-vous des discussions possibles avec le gouvernement chinois ou d'autres responsables ici sur les droits des groupes LGBT?
Vous pouvez organiser des petits événements dans d'autres villes, mais à Pékin, c'est devenu un peu difficile. Mais vous savez, cela ne concerne pas que la communauté LGBT, mais toutes les organisations de la société civile doivent se montrer prudentes. Je pense que des choses peuvent se produire dans d'autres villes en Chine. Mais une chose est certaine aujourd'hui, on se demande de quelle manière on pourrait dire à notre gouvernement « Regardez, les choses sont en train de changer autour de nous, on ne peut pas rester comme ça sans rien faire ».
Les homosexuels chinois s'organisent comme ces deux jeunes femmes qui vivent en couple et veulent se marier. Leur action a été diffusée sur le site de vidéo Tiyi, très connu en Chine.
On est venu pour interpeller les représentants à l'Assemblée nationale populaire pour déposer une proposition de loi sur la légalisation du mariage des homosexuels.
Au sein du Parlement national, quelques délégués comme Wu Ting se disent favorables au mariage des personnes de même sexe.
Le mariage des homosexuels n'est pas intégré dans la loi. Mais moi, je suis pour. Le mariage est une affaire de deux personnes. Il n'y a pas de différence entre les personnes de sexe différent et celles du même sexe. Ils ne font de mal à personne, elles ne sont pas hors la loi. Je trouve que la société est de plus en plus ouverte.
Les groupes LGBT voudraient avoir un interlocuteur au sein du pouvoir pour discuter et faire progresser leurs droits.
Reportage à Pékin, signé Dominique André.
Et deux infos en bref, Michael. La première en provenance des États-Unis.
Et plus précisément de la petite ville de Channel View, près de Houston, Texas, où une collégienne de 13 ans, Lisette Villanueva, est devenue en quelques jours une personnalité que s'arrachent les médias américains. D'abord radio et télé locales, puis CBS, CNN, New York Times et Washington Post. Alors pourquoi cette soudaine notoriété? Eh bien parce que la collégienne, la semaine dernière, a été désignée par ses professeurs lauréate d'un prix un peu particulier. Prix, je vous le donne, de l'élève le plus susceptible de devenir un terroriste. Explication, l'adolescente avait ricané en classe au lendemain de l'attentat de Manchester. Suffisant, selon ses enseignants, pour organiser une petite cérémonie devant tout le collège. Élèves et professeurs réunis, Lisette s'est donc vue solennellement remettre son prix d'apprenti terroriste. Et les enseignants ont trouvé cela tellement drôle qu'ils en ont profité pour décerner deux autres palmes. Prix de l'élève le plus susceptible de pleurer pour un rien et prix de l'élève ayant le plus de chances de devenir sans-abri. Tollé dans tout le pays, où une pétition vient d'être lancée pour limoger l'ensemble des professeurs et de la direction du collège.
Toujours en bref, Michael, l'Afrique maintenant avec cette mise en garde de l'OMS.
L'Organisation Mondiale de la Santé qui tire même la sonnette d'alarme, car l'Afrique consomme de plus en plus d'alcool fort, Nicolas. Le continent est même devenu le nouvel Eldorado des géants du secteur. Traditionnel alcool de palme, de canne, de riz ou la bière, détrôné par les vodkas, whisky et autres gins. Les alcooliers occidentaux font exactement la même chose que ce qu'a fait l'industrie du tabac il y a plusieurs décennies pour croître et augmenter leurs profits sur ce marché africain pour l'instant sous-développé. Matraquage publicitaire, en profitant bien sûr des prix très bas de la pub africaine, peu ou pas de politique de santé publique, peu ou pas de contrôle ni de normes. Résultat, les alcooliers inondent le continent de leurs boissons fortes, croissance à deux chiffres et risques sanitaires qui s'envolent d'autant, prévient l'OMS.
Et pour finir, Michael, comme chaque mercredi, on s'arrête à Bruxelles.
À Bruxelles, où nous attend Quentin Dickinson. Bonsoir.
Bonsoir Michael, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors ce soir, mon cher Quentin, on reparle de cette peur panique qui a saisi les compagnies aériennes et les gestionnaires d'aéroports en Europe. L'idée que Washington interdise les ordinateurs portables et tablettes en cabine dans les vols vers les États-Unis. Mais il y a quelques heures, Quentin, la Commission européenne est apparemment parvenue à faire fléchir les Américains.
Oui, on en a peu parlé, la chose s'est faite assez discrètement. Ce sont les commissaires européens aux transports et aux affaires intérieures, la Slovène Violeta Bulc et le Grec Dimitris Avramopoulos, qui ont eu un long échange téléphonique avec le secrétaire américain à la sécurité du territoire, John Kelly, et qui ont fait reculer la menace imminente de la mise en œuvre unilatérale d'une mesure qui aurait provoqué sans aucun doute un chaos généralisé dans le trafic aérien dans toute l'Union européenne.
Alors précisément, quel était le scénario cauchemardesque que redoutait tout le secteur des transports aériens ?
Eh bien, vous le savez, les Américains avaient eu vent par les services de renseignement israéliens de la capacité désormais maîtrisée par des groupes djihadistes d'introduire un engin explosif dans un ordinateur portable. Les services de sécurité américains avaient alors imaginé d'imposer la mise obligatoire en soute de tout appareil électronique individuel. Mais outre que cela n'empêche nullement une explosion différée, les compagnies aériennes ne veulent pas d'une concentration en soute d'un grand nombre d'appareils dotés de batteries au lithium, connus pour leur propension à prendre feu. Les compagnies ainsi que l'Agence européenne de sécurité aérienne plaident au contraire pour les maintenir dans la cabine où l'intervention du personnel de bord peut s'effectuer rapidement, ce qui n'est évidemment pas le cas si le feu se déclenche en soute. La solution adoptée par une poignée de compagnies du Proche-Orient consiste à enfermer les appareils électroniques dans une partie de la soute munie d'un système d'arrosage automatique. Mais le coût et le temps nécessaire pour en équiper tous les appareils long courrier de toutes les compagnies européennes perturberaient, on s'en doute, grandement le trafic aérien, à l'exception, bien sûr, des vols d'avions cargo.
Et puis les aéroports redoutent aussi la paralysie, Quentin.
Oui, car la vérification, l'emballage ignifugé anti-choc, l'étiquetage avant la mise en soute représenterait, selon l'estimation des aéroports de l'UE, un temps d'attente supplémentaire de l'ordre de 2 heures par vol, ainsi que l'embauche et la formation accélérée d'un grand nombre de contrôleurs supplémentaires, pour chacun desquels il faudra instruire, après enquête de proximité, un dossier individuel de risque de sécurité. La mesure, telle qu'elle s'applique actuellement au trafic entre le Proche-Orient et les États-Unis, affecte environ 350 vols par semaine. Une extension au vol entre l'Union européenne et les États-Unis pénaliserait 390 vols par jour.
Bon, dernière question, la menace est-elle définitivement écartée ?
Bien difficile d'être affirmatif. Pour le département américain de la sécurité du territoire, oui, mais d'autres sources gouvernementales de l'équipe Trump soutiennent que la mesure reste malgré tout sur la table. Vigilance donc, Nicolas.
Et Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles. Merci mon cher Quentin, Nicolas, à demain.
À demain, Michael.